le royaume spirituel, dans le monde invisible, acclamation ou acclamer est une arme de guerre redoutable. Pour ceux qui sont les vainqueurs, généralement c'est les vainqueurs, sont généralement les gens qui acclament. Et ils n'ont pas honte d'acclamer, ils n'ont pas peur d'acclamer. Ils se souviennent que tu leur as donné les mains, c'est pour l'acclamer. Il a dit, si vous ne m'acclamez pas, les pierres m'acclameront, je refuse. Non, 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 je t'acclamerai, je te célébrerai, j'exalterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ces merveilles,
ces chefs-d'œuvre.
Je chante. Et non pas avec la bouche, je chanterai tout
mon cœur.
Pas avec ma bouche, mais avec mon cœur. Raconterai toutes ces merveilles, ces chefs-d'œuvre, ces merveilles. Il fait tout à merveille. As-tu envie de chanter? Chantons son nom. Celui que mon cœur aime de tout mon cœur,
de tout mon cœur.
Je ferai de toi, je ferai de toi le sujet de ma joie.
À ce que tu dis, est-ce que tu es sincère? Est-ce que ton cœur est sincère? Est-ce que c'est ta ambition? Je ferai de toi, je ferai de toi le sujet de ma joie. J'ai fini par découvrir que Christ est la vie recherchée. J'ai tout essayé.
Oh,
j'ai découvert qu'il n'y a rien d'autre, qu'il n'y a a personne comme toi. Voilà pourquoi je soupire.
Christ est la vie. Recherche, recherche de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma voix.
Il est ma respiration, ma raison d'être. Voilà pourquoi je dis
Christ est la vie.
Il est la vie. Il est la respiration. Il est le souffle de mon âme. Le souffle. Il est ma passion. Il est ma motivation. Christ,
Christ est la vie. Recherché
de mon âme.
Ô Seigneur,
je me livre à toi. Voilà pourquoi je te demande, prends-moi ce matin.
Prends-moi
tel que je suis
dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi.
Je me livre à toi, je dépends de toi.
Prends-moi
mon Seigneur et mon Dieu, mon maître et ma vie. Je t'en supplie,
Dieu de Jacob, soutiens ma foi.
Je me livre, prends-moi ce matin. Je m'abandonne, je ne résiste pas. Jésus le Christ, mon bien-aimé,
Dieu de Jacob, soutiens ma foi.
Y a-t-il quelqu'un pour lui dire ce matin un SOS, un appel à l'aide, une adoration, d'adoration, une expression. Une expression d'adoration, une expression Père,
prends-moi Seigneur,
je t'en supplie, je me livre à toi. Dans mon état, tu connais ma condition, tu connais mes challenges, tu connais ma vie. Je t'en prie mon Père,
prends-moi Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi.
J'invoquerai Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Dieu est Père de Jésus,
Dieu de Jacob, soutiens ma foi.
Il me relève ce matin, il te redresse ce matin.
Dieu de Jacob,
il t'a fermé. Il te renfort, il te soutient, il t'équipe, il te restaure.
Dieu de Jacob, soutiens ma foi.
Dieu de Jacob, Dieu de Jacob, soutiens ma foi.
Dieu de Jacob, soutiens ma foi.
L'Éternel est papa, Dieu tout-puissant est papa. Je t'aime, oh mon Dieu, je t'aime. sauver le premier. Toi qui m'as aimé, je veux te dire mon Dieu, je t'aime. Oh, oh mon Dieu. Oh, oh mon Dieu, je t'aime. Tu es mon Père, mon Père, mon Dieu. Je vais le lire ce matin. Je veux faire retentir ma voix. Je t'aime. Je t'aime, je suis honoré. Le Père d'amour, le Père de compassion, le Père de bonté, lent à la colère, riche en miséricorde, riche en compassion. C'est mon papa et je suis fier et je n'applaudirai pas, mais j'acclamerai ton nom. Tu es mon papa. Oh, y a-t-il un adorateur ce matin? Il a dit, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit, en vérité. Où sont les adorateurs ce matin? Maya Satarabarandi. Mon Dieu, je t'aime, tu es mon papa. Mon Dieu, je t'aime, tu es mon papa. Mon Dieu, je t'aime. Je t'aime, tu es ma raison de vivre. Tu es tout, Seigneur. Ah, Seigneur. Que peut-on dire? Ta parole déclare qu'avant même que la parole sorte de ma bouche, alors qu'elle est encore dans le plus profond de mon esprit, dans les parties secrètes de mon âme, la parole n'est pas sortie encore de mon cœur, qui déjà tu la connais. Qui peut comprendre cette intelligence divine qui est la tienne, mon Père et mon trésor, mon bien-aimé, mon Papa. Ce matin, notre Père qui est dans les cieux, que peut-on dire à celui qui sait tout, à celui qui est omniscient, qui connaît toutes choses avant la fin, qui sait ce que je veux dire avant que je le dise, qui connaît les pensées secrètes de mon âme, qui connaît, qui sent de mes reins, qui connaît mes pensées. Que peut-on dire à celui qui a créé toutes choses, celui par qui toutes choses subsistent, mon Père, mon Seigneur et mon Dieu? Je veux seulement dire ma passion, je veux seulement dire mon amour, je veux te dire ma gratitude. Mon Dieu, je t'aime et j'en suis honoré. Mon Père, mon trésor, Jésus, ma raison d'être, ma raison de vivre, ma raison de continuer, ma raison de respirer, oh, c'est toi, Seigneur. Combien ce matin nous sommes reconnaissants. Merci ce matin. Si nous sommes debout ou assis, c'est par ta grâce. Si nous pouvons nous mouvoir, c'est par ta grâce. Si nous pouvons entendre, voir, toucher, goûter, sentir, c'est par ta grâce. Si nous avons même un petit bout de terre quelque part, c'est par ta grâce. Et ce matin, nous voulons te dire merci. Parce que je ne peux pas compter les bienfaits de Dieu. Et parce que je ne sais pas les compter, nous voulons simplement te dire merci. Béni soit ton nom, mon Père, mon trésor, mon bien-aimé. Oui, Seigneur, qui est comme toi, mon Père, magnifique en sainteté. Oh, Papa, notre Père qui est dans les cieux. Ah! Ah, ah, à toi la louange, à toi l'honneur, à toi la gloire. Mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer.
célébrer Adonai.
Nos mains, nos mains, nos mains, nos mains sans le levant nos mains, saluant le Père, saluant notre Mère, honorant, magnifiant. Nos mains, nos mains, nos mains,
nos mains sans le à nous voulant élever, adorer,
adorer. Nos mains, nos mains, nos mains,
nos mains sans le à
nous
voulant
élever,
adorer,
adorer.
Majestueux maître, majestueux sauveur, Jésus le Christ, tu remplis le Congo, tu remplis le Congo de ta gloire, nos yeux le verront, nos yeux le verront, et nos yeux le verront.
Ah,
ah, mon Père, mon Seigneur.
Admirable Père de grâce, Père de sainteté, qui est comme toi? Personne n'est digne de recevoir dans tout l'univers. Personne n'est digne de recevoir honneur, louange, si ce n'est notre Père et l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu, le roi de gloire.
Mon Dieu.
défenseur, il est ton protecteur, il est ton soutien, il est ta capacité. Jéhovah, l'éternel des armées, le commandant suprême des forces des armées célestes,
puissant guerrier.
Ah, mon Père. Envie de l'acclamer ce matin. We thank you, God. Nous te rendons grâce pour ta présence, la présence du Saint-Esprit dans ce lieu. Magnifique Saint-Esprit, magnifique Jésus, tu es bienvenu, tu es apprécié, tu es recherché. Tu es désiré, nous t'aimons, nous te chérissons. Merci ce matin. Oh, y a-t-il quelqu'un qui a vraiment envie d'acclamer là? Vraiment envie d'acclamer. Oh oui, Seigneur, merci. 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 We thank you, God. We thank you. Oh, j'ai envie de dire merci. Qui mérite ta présence? Personne. Qui mérite ta grâce? Personne. Qui mérite tes compassions? Personne. Et pourtant, tu fais grâce, tu fais miséricorde. Et ce matin, nous te donnons toute la gloire, tout l'honneur qui t'est dû. Nous te donnons l'adoration qui t'est due. À toi, notre Père. À toi, notre Dieu. À toi seul. Ah, merci. Ah, inspire les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Toi qui nous fais tellement de bien par ta magnifique et ta merveilleuse et ta douce présence. Esprit de Jésus-Christ, cher Saint-Esprit. Mets ta main en l'air simplement et puis dis, cher Saint-Esprit, tu es bienvenu dans ma vie, bienvenue dans ce lieu. Cher Saint-Esprit, je te désire, je soupire après toi, je te cherche, mon cœur te cherche, mon cœur languit après toi, mon bien-aimé, mon Seigneur et mon Dieu, Esprit de Jésus. Jésus-Christ, tendre Père, je te remercie. Je t'aime et je suis fier, privilégié, heureux de le déclarer, de le confesser, de te célébrer au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un acclame le nom du Seigneur ce matin. Merci, Père. Merci d'inspirer les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Cher Saint-Esprit, je reconnais mon incapacité, je reconnais ma misère, je reconnais mon ridicule. Voilà pourquoi j'implore ta grâce ce matin. Je l'ai imploré, je l'implore encore. Aucun de nous ici n'est capable de parler de la part de celui qui a créé l'univers tout entier, si ce n'est par la grâce et la miséricorde de Dieu seul. Voilà pourquoi nous nous humilions, Père, humblement sous ta puissante main. Afin que toi, tu nous fasses grâce et tu nous élèves au temps convenable. Parle à nos cœurs ce matin. Renouvelle quelqu'un ce matin. Édifie quelqu'un ce matin. Alors que ta présence est ici, nous accueillons ta présence. Nous aimons ta présence. Magnifique Jésus. Magnifique Père de grâce. Thank you, God. Nous ne voulons pas prendre sur nous l'honneur, la gloire et la louange qui t'est due à toi seul. Voilà pourquoi, pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, rien que pour ta présence, nous te donnons gloire. Non pas à un homme, non pas à l'église, non pas à qui que ce soit, mais comme le psalmiste a dit, du soleil levant jusqu'à son couchant, que le nom du Seigneur, pas le nom d'un pasteur, non, mais le nom du Seigneur, pas le nom d'un système, mais le nom du Seigneur, pas le nom d'un ange, mais du soleil levant jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel, le Seigneur de gloire, Jésus le Christ, le Père de gloire, le Saint-Esprit, que ton nom soit exalté et soit célébré.
Merci.
Quelqu'un me dit amen, amen, amen. Et vous asseoir dans sa présence pour ceux qui le peuvent. Un jour dans ses parvis vaut mieux que mille ailleurs. Ça, c'est le genre d'atmosphère que nous avons le vendredi quand nous venons ici pour adorer Dieu. Que les amoureux, les adorateurs du vendredi soir me donnent un bon amen.
Amen.
Et ça va aller en augmentant en intensité, en passion, en révélation, en gloire, en bonté, en sainteté, en puissance et en force. Ça va aller, vous allez voir, ça va aller. Continue de venir vendredi soir, tu seras bientôt méconnaissable toi-même. Quand Moïse sortait de la présence de Dieu, la Bible dit que son visage brillait parce que la gloire de l'Éternel était visible sur son visage. C'est ce qu'on dira de toi bientôt. Oh, dis-moi amen. Bienvenue à Impact Centre Chrétien, bienvenue dans cette église protestante évangélique, dans cette représentation diplomatique du gouvernement des cieux. Ce matin, nous parlons au nom de Sa Majesté, le chef d'État et de gouvernement, pas de la terre, mais de tout l'univers. Son nom est Jésus de Nazareth, le Christ. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit bonjour, Saint-Esprit. Amen, amen. Ce matin, nous allons poursuivre notre message que nous avons commencé depuis plusieurs semaines maintenant. Nous sommes toujours sur le même thème qui est de... Qui est de... Nous parlons des derniers commandements donnés par le Maître, par le Seigneur Jésus de Nazareth, le Christ, qui nous appelle au travail. Son dernier commandement avant de partir s'asseoir à la droite du Père n'était pas une mise au chômage, absolument pas du tout. Ce n'était pas une mise en repos, absolument pas du tout. C'était un appel à aller travailler. Quelqu'un me dit amen. Travailler quoi? Travailler pour aller accomplir le travail le plus important sur la terre. Et le travail du Saint-Esprit, le travail de Dieu lui-même. Dans Matthieu chapitre 28, verset 19, il a dit, allez, faites de toutes les nations des... disciples. Et dans Marc 16, verset 15, il nous dit encore, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Voilà pourquoi parmi nous, beaucoup de gens ont commencé à se lever déjà sous l'onction, l'excitation du Saint-Esprit. Ils ont commencé à aller témoigner au voisinage, témoigner à l'école, témoigner au bureau, témoigner dans les bus, témoigner dans les rues, témoigner partout. Même quand on vous dit taisez-vous, tu dis non, je ne me tairai pas, je témoignerai. Pourquoi? C'est quoi le travail de Dieu? Le travail de Dieu consiste simplement à agrandir la famille de Dieu, dépeupler l'enfer pour peupler le royaume de Dieu, faire grandir la famille de Dieu, gagner des âmes pour Christ, gagner des âmes pour le royaume de Dieu, sauver des âmes de l'enfer et les affermir en Christ afin de les emmener à la ressemblance de Christ. Afin que toi et moi, nous parvenions à la ressemblance, à la stature de Christ. C'est-à-dire que quand on te voit, on voit Jésus le Christ. Dis-moi amen, c'est cela le travail de Dieu. Donc nous avons vu ces dernières semaines pourquoi est-ce qu'il est indispensable de faire le travail de Dieu. Nous en avons parlé. Nous avons parlé de combien sont appelés à aller faire le travail de Dieu. Nous avons vu que ce n'est pas juste un pasteur ou des bishops, trichops, quatrichops, archichops, chuchochops, tous les chops, l'évêque, les arches. Non, c'est tout le monde qui est appelé à aller faire le travail de Dieu. Quelqu'un me dit amen. Nous avons vu ce que signifie, nous avons parlé de ce que signifie être appelé. Nous avons aussi étudié comment les gens sont appelés. Et la semaine dernière, nous avons vu quels sont les profils des personnes qui sont appelées pour aller accomplir le travail de Dieu. Nous avons dit que Dieu appelle ceux qui manquent de réussite dans la vie. Dieu les appelle. Nous avons dit que Dieu appelle ceux qui sont rejetés ou bien ceux qui ont été rejetés dans la vie, c'est-à-dire pratiquement tout le monde. Dieu nous appelle. Dis-moi amen. Nous avons vu que Dieu appelle ceux qui manquent de crédibilité. Nous avons vu que Dieu appelle ceux qui ont un complexe d'infériorité, complexe de supériorité ou d'égalité, qu'importe. Ceux qui ont des complexes dans la vie sont bien qualifiés pour aller faire le travail de Dieu. Quelqu'un me dit amen. Nous avons vu que Dieu appelle les personnes qui ont déjà échoué dans les tentatives précédentes. Quelqu'un me dit amen. Et ce matin, nous allons continuer. Nous allons aussi dire ce matin que Dieu appelle aussi ceux qui sont les derniers de leur famille. Il y a dans certains lieux, dans certains milieux, dans certaines cultures, il y a une tendance généralement à minimiser, à banaliser ceux qui sont les derniers de la famille. Comme David, par exemple, qui était le dernier de la famille. Donc si toi, tu es le dernier de ta famille, t'inquiète pas, Dieu t'appelle quand même à aller faire le travail de Dieu. Ce que les hommes ont dit n'est pas ce que Dieu a dit. Dieu appelle même les derniers aussi. Juge, chapitre 6, au verset 15, Gédéon dit à Dieu, voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. La raison pour laquelle le Saint-Esprit nous donne cet enseignement, parce que le Saint-Esprit m'a dit, je veux balayer toutes les excuses, je veux que mon peuple comprenne que toutes les excuses qu'il me donne pour ne pas accomplir mon travail sont totalement inefficaces parce qu'il y a un travail à faire, c'est le travail le plus important. Il faut aller faire ce travail-là. Dis-moi amen. Donc Dieu est en train de démonter tes arguments comme il a démonté les arguments de Moïse. Il a pilonné les arguments de Gédéon, mais il est aussi en train de démonter tes raisonnements à toi. Dis-moi seulement amen, même quand ça te fait mal. Donc au septième point, Dieu appelle les personnes qui sont incapables et sans force. Dieu appelle les personnes qui se sentent incapables et sans force. Incapables et sans force. Dans Juges chapitre 6, verset 14, l'Éternel dit, toujours dans le cas de Gédéon, Juges chapitre 14, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur. Gédéon était quelqu'un qui soupirait beaucoup, comme beaucoup d'entre nous ici parfois nous disons, Ah Seigneur, mon Seigneur. Avec quoi délivrerai-je Israël? Avec quoi? Mon frère, ma soeur, je suis venu te dire ce matin que lorsque Dieu t'appelle, tu te sentiras généralement impuissant et incapable de faire quoi que ce soit. Dis-moi amen. Quand Dieu t'appelle à faire la moindre chose, généralement, si tu te sens compétent, qualifié, je l'ai dit la semaine dernière, je le redis encore, si tu te sens totalement qualifié, capable, ça veut dire que tu as un problème de qualification. Parce que réellement, quand on est qualifié par Dieu, quand on est passé à l'école de Dieu, dis-moi à l'école de Dieu, l'école de Dieu, c'est l'école du Saint-Esprit. C'est vrai que là, nous avons commencé l'école du Saint-Esprit pour parler du Saint-Esprit, de sa personne et de l'effet quand il vient dans ta vie. Mais il y a aussi une école, il y a aussi le deuxième cycle où on parle des étapes que le Saint-Esprit t'emmène à parcourir dans la vie. C'est un peu moins agréable, mais c'est utile pour toi. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Quand Dieu appelle, Dieu te forme d'abord. Dieu te prépare, il te forme, sinon tu vas échouer. Qui te forme. Et quand donc Dieu appelle, tu te sens toujours incapable. Si tu te sens incapable, impuissant, ce n'est pas un critère pour ne pas aller, bien au contraire. C'est un critère pour aller parce qu'il a dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit que tu peux aller. Que tu peux aller accomplir quoi? Le travail de Dieu. Gédéon, dans le cas d'espèce, avait demandé à Dieu un signe pour confirmer qu'il avait été appelé par Dieu. Il disait, oh, Seigneur, Seigneur, si vraiment tu m'as appelé, donne-moi un signe, donne-moi un miracle qui me confirme que vraiment tu es avec moi, vraiment tu m'as appelé. Et effectivement, l'Éternel lui a donné un signe. Mais la réalité, mon frère, si tu comptes sur un signe pour confirmer ton appel, tu vas échouer. Tu vas abandonner vite fait. Pourquoi? Parce que Dieu ne t'appelle pas à marcher par des signes ou par des miracles. C'est-à-dire que Dieu ne te demande pas de voir avant de croire. Dieu te demande de marcher par la foi. Dieu s'attend à ce que tu marches par sa parole et non pas par les différents signes ou les différents prodiges. Beaucoup d'entre nous ici, nous avons déjà fait des prières pour dire, Seigneur, cette nuit-là, tu dois me parler. J'ai écouté les témoignages de tel homme de Dieu, telle femme de Dieu. Jésus est venu dans sa chambre. Il a apparu avec une robe blanche. Il a pointé le doigt sur lui. Il a dit, toi, je t'envoie, va faire mon travail. Tu vas guérir les malades, tu vas résister les morts, etc. Je dis, Seigneur, je suis tombé, je me suis relevé. J'ai dit, ouh, j'ai senti la chaleur et après je suis parti. Alléluia. Ça, c'est des cas rares. Le pasteur Castanou, Yves, vraiment, ils ont tout fait pour crier à Dieu. Ils ont donné à Dieu des ultimatums. Seigneur, c'est aujourd'hui ou pas, tu dois te révéler à moi. Et il n'y a pas eu le bruit, même pas le bruit d'un char, même pas le bruit d'un oiseau. Il n'y avait rien. Tout à l'heure le matin, tu es frisé. Tu dis, Seigneur, c'était hier. Aujourd'hui, je te donne une dernière opportunité. Révèle-toi à moi. Et il n'y a eu rien du tout. Même pas un verset biblique. Quelqu'un me dit, aïe. N'empêche qu'ils sont allés. Ils sont partis. Et ce matin, d'ailleurs, pendant que je donne mon message, j'ai oublié de le faire. Je voudrais vraiment bénir le Seigneur pour la présence de notre frère, le pasteur Teddy, le pasteur Freddy, pardon, vraiment. Le pasteur Freddy Koyamba, qui est le pasteur en charge du campus de ICC, Impact Centre Chrétien Martinique, dans les Caraïbes, c'est très loin, c'est l'Amérique du Nord, pasteur Freddy Koyamba. Il est de la République centrafricaine. Quelqu'un me dit amen et quelqu'un acclame le Seigneur pour lui. Debout, monsieur. Voilà, pasteur Freddy, je tiens à l'honorer parce que quand on parle des gens qui sont allés accomplir le travail de Dieu, ça fait 3 ans qu'il est pasteur en Martinique. Quand on a ouvert le campus, le pasteur Freddy était un cadre à Coca-Cola en France. Il a quitté son travail en France pour aller accomplir le travail de Dieu avec son épouse là-bas au niveau de la Martinique. Là, il y a eu beaucoup d'âmes à aller sauver. Quelqu'un me dit gloire à Dieu. Voilà, il y en a qui ont dit, je ne suis même pas sûr qu'il y ait plus de 2, parce que je ne suis même pas sûr qu'il y ait plus de 2 Centrafricains en Martinique. Je sais qu'il y a des gens de la RDC, c'est sûr. Parce qu'eux, ils sont partout. Même les gens du Congo sont partout. Mais des Centrafricains, vraiment, il n'y en a pas beaucoup. Peut-il venir de bon quelque chose du Centrafrique? Absolument. Absolument. La Centrafrique sera sauvée. Jésus régnera bientôt à Bangui. Oh, je vous dis, l'Afrique centrale sera embrasée par la puissance du Saint-Esprit. Tout œil le verra, même ceux qui n'y croyaient pas, ils le verront. Oui, quelqu'un me dit amen.
Pour Jésus de Nazareth, mon frère, ma soeur, il n'a fallu qu'il attende 30 ans pour voir un premier miracle, un premier signe. Donc ne dépend jamais des signes extérieurs pour déterminer ton appel. Ne dépend jamais des signes extérieurs pour déterminer si tu es appelé ou pas. On obéit à l'appel de Dieu suite à la parole de Dieu. Quand Jésus dit « Viens, suis-moi », quand on donne ce genre de message, dans ton cœur, tu dis « Seigneur, je ne cherche pas les excuses, pas les raisonnements, j'accepterai de faire ta volonté. Car après tout, je suis né pour faire ta volonté. » Dis-moi « Amen ». Tout dépend simplement de la conviction que tu as dans ton cœur, la conviction qui est donnée par le Saint-Esprit. Je vous l'ai dit, pasteur Abu, pasteur Yves, pasteur Yvon, personne n'a reçu un signe surnaturel, un signe miraculeux, pas du tout. N'empêche qu'aujourd'hui, nous sommes privilégiés, honorés de faire ce que Dieu nous appelait à faire, le travail le plus important sur la terre. Dis-moi, amen. Alors, quand Dieu t'appelle, mon frère, ma soeur, tout le monde ne cherche pas d'excuses. Tu te sens incapable, tu es qualifié. Sans force, tu es qualifié. La bonne nouvelle, c'est que c'est vraiment le Saint-Esprit qui t'emmène de manière progressive. Quand il t'appelle, généralement, tu ne sais même pas ce que tu vas dire. Tu ne sais même pas de quoi tu vas parler, ce que tu vas prêcher, ce que tu vas enseigner. Tu ne le sais pas. Même la Bible, tu ne la connais même pas. Tu ne la connais pas par cœur. Même ceux qui connaissent la Bible aussi par cœur, ça ne veut rien dire. Tu peux connaître toute la rhétorique biblique, les versets bibliques, il est écrit dans Matthieu, ça ne veut rien dire. Ça veut rien dire. C'est bien de lire, mais c'est encore mieux d'en parler. Si tu en parles sans onction, ça ne sert à rien. Tu vas endormir les gens du matin au soir. Dis-moi amen. Oh, le pasteur, t'as de parler, c'est fini à quelle heure? Quelqu'un me dit aïe. Donc le Saint-Esprit t'enseignera, dis à ton voisin, Dieu t'appelle à accomplir son travail. Huitième point, huitième profil, c'est que Dieu appelle les personnes qui ont le sentiment d'être délaissées par Dieu. Les personnes qui ont le sentiment d'être abandonnées par Dieu. Juge chapitre 6, verset 13, toujours le récit de Gédéon. Gédéon répond à Dieu, quand Dieu lui dit, va avec la force, va, je t'envoie. Gédéon dit à Dieu, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent que l'Éternel ne nous a-t-il fait pas monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Mon frère, ma soeur, tu sais, ça c'est un point qui pour moi est très important. Parce que peut-être ce n'est pas ton cas, toi tu dois encore vivre un tout petit peu, mais parmi nous ici, il y a quelques personnes, franchement, qui ont vécu de la vie, qui ont marché avec Dieu et qui, très franchement, parfois ont le sentiment que Dieu les avait abandonnés. Ils attendaient Dieu, ils attendaient à ce que Dieu les visite, Dieu les secoure, Dieu les guérisse, Dieu même les sauve. Mon frère, ma soeur, si tu as été sauvé tôt, à 20 ans, moins de 20 ans, un peu plus de 20 ans, franchement, il n'y a pas de plus grande grâce que d'être sauvé tôt dans la vie. Je n'ai pas entendu quelqu'un me dire amen. Et frère, moi, je vois tous ceux qui, de ma génération, n'ont pas été sauvés comme nous. Des fois, je me dis, mais comment ils font pour vivre sans Jésus? C'est-à-dire, comment on peut faire pour vivre? Bon, toi qui es encore un circoncis, qui écoute ma voix là, comment tu fais? C'est simplement impensable. Il est vraiment, c'est une... Quand tu ne sais pas pourquoi tu dois dire merci au Seigneur, parfois tu es frustré. Pense au moins au fait qu'il t'a sauvé. Parce que la vie ne s'arrête pas là. Ce que tu vois là n'est qu'une parenthèse de l'éternité. Et la vraie vie, ce n'est pas là. Oh, dis-moi amen. Dans les prochaines semaines, par la grâce de Dieu, je vais vous démontrer, le Saint-Esprit en moi va vous démontrer comment tout ce que tu vois là n'est pas réel. Le micro que je touche, je tiens dans ma main, n'est pas la réalité. Je vais vous montrer ces choses. Le pupitre que tu vois n'est pas réel. Intéressant, n'est-ce pas? On va en parler dans les prochaines semaines. Très bientôt, 2 ou 3 semaines, je pense, Dieu voulant. Est-ce que je peux continuer? Parfois, tu penses que Dieu aurait pu te guérir depuis longtemps. Dieu aurait pu te restaurer depuis longtemps. Il aurait pu te donner des enfants depuis longtemps. Il aurait pu te secourir depuis longtemps. Il aurait pu agir depuis longtemps et il ne l'a pas fait. Et généralement, quand c'est comme ça, tu as l'impression que le ciel est fermé sur ta tête. Tu te sens abandonné, tu te sens délaissé par Dieu, oublié par Dieu. Et quand c'est comme ça, même tes voisins te questionnent par rapport à ton Dieu. Ils te questionnent par rapport au Dieu en qui tu as mis ta confiance. Et c'est des saisons sombres de la vie, c'est des saisons délicates, difficiles. Tu as beaucoup de questions, tu es frustré, tu te poses, tu t'interroges beaucoup. Pourquoi ceci, pourquoi cela? Pourquoi ceci, pourquoi cela? Je suis venu te dire ce matin que Dieu est souverain et que Dieu ne t'a pas oublié. Quelqu'un me dit amen. Il y a deux femmes qu'on appelle, deux sœurs qu'on appelle Marthe et Marie, qui elles aussi étaient frustrées. Parce qu'un jour, elles ont envoyé un message à Jésus parce que la situation empirait, la situation était grave.
Lazare était en train de mourir. Elles ont dit, appelez Jésus. Jésus a eu le message juste à temps, 4 jours plus tard. Et Jésus, quand il entend le message, il dit, ok, d'accord, j'ai entendu, merci beaucoup. Des fois, quand tu pries, c'est ce que Dieu aussi dit, j'ai entendu la prière, j'ai entendu. Et alors, les femmes ont commencé à avoir cette d'esprit. Pourquoi ne vient-il pas? Pourquoi il n'est pas là? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il attend? Mais il y a le besoin, mon frère, ma soeur, tu sais, j'ai aussi appris en toute humilité une leçon dans la vie. Dieu n'intervient pas quand je m'attends à ce qu'il intervienne. Parfois, il intervient quand je m'attends. Parfois, il intervient juste en son temps à lui. Dieu n'est pas obligé de faire comme toi tu veux. Il est souverain. La Bible dit qu'il connaît toutes choses. Il voit la fin avant le commencement. Il voit le commencement avant la fin. Il voit le milieu. Il voit tout. Il sait où il doit intervenir. Il sait. Et la vérité, c'est que les femmes étaient dans une situation totalement désespérée parce que l'homme, le frère qu'elles aimaient tellement, qu'elles chérissaient tellement, qu'on appelait Lazare, est mort finalement. Il est mort, il est mort. Et dans Jean 11, verset 21, Marthe dit à Jésus, quand il arrive 4 jours plus tard, le corps est mort, l'enterrement a déjà eu lieu, le corps est dans la grotte carrément, maintenant c'est fini, c'est trop tard, il n'y a plus d'espoir. Est-ce que tu sais que Dieu aime les situations désespérées? Oh, quelqu'un me dit amen. La plupart d'entre nous, nous voulons que Dieu intervienne tout de suite. Or, parfois, Dieu laisse pourrir un peu la situation afin que sa gloire soit manifestée. Dis-moi amen. C'est pour ça qu'il ne faut pas être inquiet quand tu vois que Dieu tarde. La Bible dit qu'il ne tarde pas en réalité. Il est en train de trouver le bon moment stratégique pour manifester sa gloire. Et toi, Marie, Marthe a dit à Jésus, Jésus, si tu eusses été là, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Pourquoi n'es-tu pas venu plus tôt? Il dit, Marie, crois seulement, je suis venu au bon moment parce que je suis l'Éternel. Je viens toujours au bon moment. Jamais en avance, jamais en retard, toujours à l'heure. Dis-moi amen. La police, ce n'est pas la même devise. L'armée, ce n'est pas pareil. Mais Dieu, toujours à l'heure. Jamais en retard, jamais en avance. Alléluia. Je ferme la parenthèse. Je n'ai pas envie d'avoir des problèmes avec certains corps ici. Oubliez ce que j'ai dit, c'est juste une blague, d'accord? Okay. Le pasteur plaisantait. Parce qu'il y a quelqu'un qui me regarde avec un visage serré. Calme-toi, calme-toi. Dans Ecclésiastes chapitre 3, verset 1, il lui dit, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Dieu fait toutes choses à merveille. Jésus de Nazareth a dû attendre 30 ans pour que le Saint-Esprit arrive. La plupart d'entre nous, nous dirions, mais il a attendu longtemps pour que Dieu intervienne. Qui es-tu? Jésus de Nazareth, fils de Dieu. Je suis là pour sauver l'humanité. J'attends. Tu attends quoi? J'attends. Tu attends quoi? Le temps de Dieu. Et le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Tu ne peux rien faire contre le temps de Dieu. Mais Dieu fait toutes choses belles, admirables, parfaites en sa saison. Dis-moi amen. Voilà pourquoi je parle ce matin, afin que ton cœur soit consolé et que ton cœur ne s'inquiète pas. Dieu est souverain. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu est fidèle. Il dit ce qu'il fait et il fait ce qu'il dit. Je répète, il fait ce qu'il dit et il dit ce qu'il fait. S'il t'a dit, il ne te délaissera pas, il ne te délaissera pas. Dis-moi, amen. Dans le psaume 94, au verset 14, il est écrit, car l'Éternel ne délaisse pas son peuple. Il n'abandonne pas son héritage. Il n'abandonne pas sa postérité. Il n'abandonne pas ceux qui lui appartiennent. Et au psaume 37, verset 28, il est écrit, car l'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde. Même quand ils ont l'impression que les ténèbres sont épais sur eux. Non, mon frère, le regard, les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les bons et les méchants, les vivants et les morts. Donc, dans la profondeur du séjour des morts, les yeux de l'Éternel sont là et la présence de Dieu est là. Partout dans l'univers, Dieu est là. Et Dieu dit ce matin, je ne abandonne jamais ceux qui mettent leur confiance en moi. Je m'appelle fidèle. D'ailleurs, ma fidélité est un bouclier et une cuirasse. Ma fidélité parlera. Dans ta vie, tôt ou tard, je te dis ce matin, la fidélité de Dieu parle toujours. Tu as entendu ce que j'ai dit? J'ai dit que la fidélité de Dieu parle toujours. Oh, dis-moi amen. Alors pourquoi tu t'inquiètes? Dieu appelle ceux qui se sentent délaissés. Et Dieu n'a oublié personne. Dieu appelle tout le monde. Il t'avait délaissé hier, il ne t'avait pas délaissé, il te laissait juste le temps d'apprendre à le connaître. Dis-moi amen. Neuvième profil, Dieu appelle les personnes qui sont issues des familles pauvres. Tout le monde sait, naturellement. Je vous dis, Dieu appelle, dis à ton voisin, Dieu appelle tout le monde. Dieu appelle tout le monde. Dans Jude chapitre 6 au verset 15 et Gédéon, pour toujours trouver des excuses au fait d'aller accomplir le travail que Dieu lui demande d'accomplir, il dit: mais voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé. Bonne nouvelle, Dieu appelle même ceux qui sont issus des familles pauvres. Il fut un temps pendant l'âge noir de l'église où on avait fait croire à certaines personnes, où le système religieux faisait croire que pour servir Dieu, pour accomplir le travail de Dieu, il fallait être un noble, il fallait être de l'aristocratie, de la noblesse, de la royauté. C'était eux, généralement, qui avaient le droit d'administrer le service envers les autres, les plus faibles, parce que c'était ce qu'on appelait les nobles. Non, mon frère, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de nobles. Dans le royaume de Dieu, il n'y a que des serviteurs. Il n'y a pas de riches, il n'y a pas de pauvres, il n'y a que des serviteurs. Quelqu'un me dit amen. Mais je dois vous dire ceci quand même entre nous. La pauvreté augmente beaucoup le sentiment d'indignité. La pauvreté n'est pas du tout une bénédiction. Si quelqu'un te demande de faire vœu de pauvreté, il est en train de te détruire. À petit feu. La pauvreté ne vient pas de Dieu, elle vient du diable. Voilà pourquoi quand Jésus de Nazareth entend, s'il te plaît, ces paroles, quand Jésus-Christ est venu pour sauver l'humanité et qu'il est parti à la croix, il n'a pas seulement pris les infirmités, il n'a pas seulement pris les maladies, il n'a pas seulement pris les souffrances sur lui à la croix. La Bible dit qu'il a pris aussi le rejet, mais en plus du rejet, il a aussi pris ce qu'on appelait ma pauvreté. Jésus a pris sur la croix du calvaire la pauvreté. Voilà pourquoi il a dit qu'il s'est fait pauvre afin que par sa pauvreté, toi, tu sois enrichi. Donc, si quelqu'un nous dit, je ne sais pas qui ose dire ce genre, mais parfois il y a des gens qui disent qu'il faut faire pauvreté, vœux, tout ça là. Il faut seulement dire, mon frère, la Bible dit que Dieu n'est pas dedans. Sans polémique, on ferme la parenthèse, quelqu'un me dit amen. Dieu n'est pas dedans. Ça, c'est des mensonges du diable pour nous faire croire que non. Parce que la pauvreté, tu sais, quand tu vis dans un environnement de pauvreté, tu manques de tout. Tu manques de tout. Et le pire, c'est que tu apprends à dépendre des gens. Et le problème, c'est que parfois, les gens qui t'aident, ils veulent que tu sois conscient qu'ils t'ont aidé. Tu vois, non? Maintenant, tu as 50 ans. Mais je t'ai pris depuis 20 ans. Mais ils te rappellent tous les jours quand même que c'est grâce à moi que tu es là où tu es. Bon, toi, tu n'as jamais vécu ça. Moi, je parle à ton voisin. Parce qu'il y a des gens parmi nous ici qui sont, on leur rappelle constamment ce qu'on a fait pour eux. Rappelle-toi que je t'ai payé tes études malgré le fait que... Oh, papa, pendant combien de temps tu vas me rappeler ça? Tu étais pauvre, j'étais pauvre de ta misère maintenant. Non. La pauvreté te fait vivre dans un environnement où tu es dépendant, où on casse ton estime de soi. Beaucoup de gens qui viennent des milieux pauvres, on les a massacrés. Ah, va là-bas. Ah. On t'insulte, on te méprise parce qu'on dit que tu es pauvre. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus a pris ça sur la croix du calvaire. Donc tu n'as plus à endurer ça. Dis-moi, je refuse d'être pauvre. Parce que la pauvreté a souvent la conséquence de détruire la confiance. On te casse ta confiance. Voilà pourquoi beaucoup de gens qui viennent des milieux pauvres ont du mal à faire confiance à Dieu. Quand Dieu dit tout est possible à celui qui a la foi, tu dis amen, mais parfois tu as du mal à croire. Tu dis ah, mais vraiment, mais moi là, il y a tellement de paroles qu'on m'a dit que j'étais minable, pauvre, pauvre type, échec, tu n'échoueras, tu ne réussiras jamais à l'école. Toutes ces choses-là, c'est dur. Voilà pourquoi l'arme secrète, c'est la parole de Dieu. Parce que la parole restaure toutes choses. Tu demeures dans la parole. Et la parole, Dieu te dit, oh, moi je connais les projets que j'ai formés pour toi. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Mon fils, ma fille, peut te donner un avenir et de l'espérance. Ah, mon béni, tu allais jouer. Non, 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 ma fille. Ainsi parle l'Éternel. Je t'appelle partenant. Je te connaissais avant le ventre de ta maman. Déjà, je t'avais appelé pour être mon serviteur, ma servante. Je t'aime d'un amour éternel. Oh, dis-moi amen. La pauvreté détruit l'estime de soi. La pauvreté détruit la confiance en soi. Et c'est pour ça que beaucoup de gens qui ont été appelés, je dois vous dire une vérité, ont échoué beaucoup dans le ministère. C'est-à-dire que les gens qui viennent des milieux parfois pauvres, Dieu merci, beaucoup ont réussi. Quelqu'un me dit amen. Beaucoup. Et jusqu'à aujourd'hui, beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes qui viennent de ces milieux très pauvres ont réussi dans le ministère. Mais beaucoup aussi ont échoué. Appelés par Dieu, oints par Dieu, mais mentalité de pauvreté n'a pas quitté. Donc il est établi, par exemple, pasteur. Tu vois, il n'y a pas de problème. Mais parce qu'il a tellement peur de redevenir ce qu'il était hier. Gars, quand tu vois quelqu'un qui est pauvre dans une église, un pasteur, ça se voit. Il va te faire 10 offrandes en un petit cube, ça, 10 offrandes. L'offrande du pasteur, l'offrande du prophète, l'offrande du bishop, l'offrande de la femme, l'offrande des enfants, l'offrande de l'église, l'offrande du bâtiment. Mais tout ça là. Et quand tu as le malheur de dire, mais pasteur, puisse savoir pourquoi il y a autant de fraudes. Ah, esprit de sorcellerie, toi tu n'es pas des nôtres. Et tu vois, c'est compliqué, mon gars. Après maintenant, c'est les manipulations, c'est les menaces, tu vois. Dieu a dit, il faut donner ta voiture, donner ta maison, donner toutes ces choses. Bon, si Dieu a parlé, il doit aussi parler à mon cœur. Dis-moi amen. Mais toi, en disant, Dieu a dit, donne. Mais non, mais pasteur, vraiment, Dieu a dit là. Mais là, le Saint-Esprit dit, c'est pas moi. C'est lui-même. Il faut entendre la voix de Dieu. Dis-moi amen. Tu vois, après, c'est des appels aux offrandes abusives. Parce que tu vois, Dieu veut qu'on fasse des offrandes. Amen. Moi, je suis un gars qui aime les offrandes. Je vais me donner. Mais il faut être équilibré avec Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle, hein? Ouais, comme ça, après, on commence à monter les gens, les uns dans l'église, les uns comme les, contre les autres. Tu vois, cet esprit de pauvreté dans l'église fait que quand tu vois quelqu'un qui arrive avec une belle voiture, avec un beau costume, tu dis, mets-toi là, ça, c'est la place des nobles. Tu es arrivé. Non, ne te mets pas à côté de lui. Toi, tu dois rester derrière là-bas. Tu vois, parce que tu te dis que celui qui... Tu penses que tout ce qui brille, c'est de l'or. Tu as tort, mon gars. Moi, je connais des gens qui mettent des costards, mais qui n'ont rien dans la poche. Hein? Quelqu'un me dit, amen. Voiture empruntée, costume emprunté. Ah, dis-moi, amen. Hein? Moi, quand j'étais aux États-Unis, je me rappelle, même mon boss était un milliardaire, un Américain, mon boss, on l'appelait Roger Ciboni. Toujours en dîne, casquette, il venait là. How are you, Yves? How are you? What's up? J'ai dit, ah, chef, monsieur. Il dit, non, call me Roger, appelle-moi Roger. Non, c'est bon. J'ai dit, waouh, power, mais le gars, il est cool. Si tu le vois, tu vas le mépriser. Alors que nous, on était toujours au costard et nous, on voyait rien. Moi, je suis costard, je vois rien. Lui, c'est le chef, il est cool, il voit clair. Dis-moi amen, papa. Dis à ton voisin, sois décomplexé. Oh. Voilà, mais le problème, c'est que l'esprit de pauvreté va regarder aux apparences. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? AICC, tu es mal tombé si tu penses qu'ici, parce que tu as le costume, tu dois t'asseoir devant. Il n'y a pas ces choses-là. On s'en moque de ton costard, de ton tailleur, on s'en moque. On s'occupe de Jésus le Christ. Je me rappelle, il y a un frère qui est venu ici. Il y a quelqu'un qui est venu d'une certaine église de la place et il est venu ici. Et au bout de quelques semaines, il m'a fait une remarque. Il m'a dit, c'est bizarre. Ici, il n'y a pas de... Et puis, il me demande, mais ici, il n'y a pas de place pour les VIP. Il m'a dit, mais les VIP, c'est qui? Quand tu es en Christ, tu es un VIP du royaume. VIP de quoi? Vous voyez, c'est parce que l'intelligence n'a pas été renouvelée que dans certains endroits, on vous dit, donc, vous mettez-vous là, vous les autres là-bas. Non, 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 non. Le VIP, c'est celui qui est en Christ. Tu es devenu quelqu'un le jour où tu es né de nouveau. Parce que le Dieu des cieux est venu habiter en toi. Parce que maintenant tu deviens le temple, la maison de Dieu, le palais de Dieu. Tu brilles parce que Dieu brille. Tu deviens ce qu'on appelle la lumière du monde, le sel de la terre. Ça veut dire quoi? Oh, quelqu'un me dit amen ici. La pauvreté. Et donc beaucoup ont échoué. Ils étaient appelés par Dieu. Mais ils n'ont pas été qualifiés par Dieu. Pourquoi? Parce que leurs cœurs n'ont pas été préparés. Ils n'ont pas pris le temps de travailler leur cœur, de préparer leur cœur, de transformer leur cœur. Aussi bien d'ailleurs ceux qui viennent des milieux riches, parce que je connais aussi des gens qui viennent de certains milieux très aisés, tu vois, et qui annoncent l'évangile d'une certaine manière qui fait que, écoute mon frère, moi je ne parlerai pas si ce n'est pas un micro qui est parfaitement nettoyé. Je ne peux pas aller dans une église où il n'y a pas des chaises, où il y a des chaises qui peuvent se casser. Je n'accepterai jamais ce genre de choses. Toi, tu ne peux pas faire la volonté de Dieu. Un bon serviteur de Dieu doit pouvoir dormir par terre, debout, assis, couché, sur une nasse, sur un drap, sur un matelas. Quelqu'un me dit amen. Quand tu vas à l'école de Dieu, tu vas t'apprendre l'humilité. Dis-moi amen. La bonne nouvelle, c'est que beaucoup aussi ont merveilleusement réussi avec Dieu pour faire l'œuvre de Dieu de manière formidable. Quelle était la différence? Leur cœur. Quelqu'un me dit leur cœur. Quelqu'un me dit le cœur. C'est le cœur, tout se passe au niveau du cœur. Il est écrit dans Psaume 109 au verset 2, béni soit ou encore heureux ceux qui gardent ses préceptes ou encore ses commandements, et heureux ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Je voudrais faire une parenthèse comme je l'ai fait au premier culte. Ouh là là, j'ai pas beaucoup de temps. Je voudrais faire une parenthèse sur le cœur. Le cœur, non, je pense pas que j'aurai le temps. Je voudrais faire juste une petite parenthèse sur le cœur, mais je reviendrai là-dessus. Quelqu'un me dit le cœur. Quel que soit ce que tu es, quel que soit le milieu dans lequel tu nais, retiens seulement ceci. Ce qui fait la différence avec Dieu, c'est l'état du cœur. L'état de ton cœur. Dis à ton voisin, protège ton cœur. Travaille ton cœur. Dis-moi amen. Dis-moi le cœur. Le cœur. Le cœur, c'est la clé. Le cœur. Quel type de cœur veux-tu avoir devant Dieu? C'est ta responsabilité de protéger ton cœur, de garder ton cœur. C'est ta responsabilité de prendre la parole. Un conseil gratuit, mon frère, ma soeur, quel que soit le milieu d'où tu viens, quand tu nais de nouveau, fais attention, sème dans ton cœur. Aime Dieu avec tout ton cœur. Décide de t'engager avec Dieu de tout ton cœur. Beaucoup parmi nous s'engagent avec Dieu seulement de temps en temps. Quand on s'engage avec Dieu, ce n'est pas 100%. Avec Dieu, ça doit être 100% ou 0%. Dis-moi amen. Oui, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça. Mais avec Dieu, c'est 100% ou c'est 0%. Tu prends le temps, quand tu donnes ta vie au Seigneur, tu prends le temps de laisser la parole de Dieu te pénétrer. La parole a te pénétré, pas le pasteur, la parole. La parole restaure et restaure et renouvelle ta mentalité. Ensuite, tu apprends à participer au culte, aux réunions, etc. Pourquoi? Parce que tu as besoin d'être entouré des gens qui aiment la parole, des gens qui craignent Dieu, des gens qui servent Dieu de tout leur cœur. Paul a dit à Timothée, Timothée, mon enfant, et je te conseille de fréquenter des gens qui adorent le Seigneur avec un cœur pur. Parce que tout le monde chante, mais tout le monde ne chante pas avec un cœur qui est pur. Tout le monde adore, mais tout le monde n'adore pas avec un cœur qui est pur. Un cœur qui est pur, c'est un cœur qui est entier à l'Éternel, entier, 100% Dieu, 0% le monde. Dis-moi un bon amen. Et ça ne naît pas comme ça du jour au lendemain. Non, tu dois le cultiver. Comme un agriculteur cultive son terrain, cultive son jardin, tu dois cultiver ton cœur. Parce que ton cœur est un véritable champ. D'ailleurs, ton cœur, c'est le champ de bataille de toutes les forces célestes et obscures. Amen. Dis-moi amen. Dieu appelle, le dixième point, Dieu appelle les personnes qui ont peur. Dis avec moi, Dieu appelle les personnes qui ont peur. Quand tu es appelé, quel que soit l'appel que Dieu aura dans ta vie, quel que soit ce que tu seras appelé à faire, comprends une chose, mon frère, ma soeur, quel que soit ce que Dieu t'appelle à faire, il y a toujours le sentiment de peur qui peut nous miner, qui peut nous gagner à un moment donné ou à un autre. Tout le monde connaît ce qu'on appelle des saisons de peur, des sentiments de peur. Quand on est, surtout quand on est appelé à aller faire le travail de Dieu. La peur de l'adversité, la peur de l'inconnu, la peur de manquer d'argent. Parce que c'est vrai, tu vas aller faire le travail de Dieu, tu vas être rémunéré. Comment? La peur de manquer d'argent, la peur d'échouer, la peur de souffrir sur le terrain. La peur d'aimer, la peur de faire confiance, la peur de parler en public, la peur d'être calomnié, la peur d'être rejeté. C'est des choses que tu vas devoir gérer. Dis-moi amen. La peur d'être calomnié, d'être critiqué, d'être insulté. Moi, j'ai devenu spécialiste dans mon âme bénie l'Éternel. Dis-moi amen. Quand je dis Christ est la vie, recherchez de mon âme. C'est tout ce qui m'intéresse, c'est Christ. Les critiques, les injures, les insultes, j'en ai rien à faire. Ça dit, c'est comme ça tombe, ça ne me touche même pas. Même pas un peu. Je suis détendu. Quelqu'un m'a demandé comment tu fais. Il dit, mon gars, c'est Christ. Je suis rempli du Saint-Esprit, ça me suffit. Les armes les plus redoutables de Satan sont la peur et l'intimidation. L'intimidation qui en vérité est un dérivé de la peur. Regardez comment le virus Ebola est en train de créer la psychose partout, dans le monde occidental comme dans le monde, dans les pays développés, les pays sous-développés. Les gens sont terrorisés par un simple virus. Un simple virus est en train de créer la panique. Comme quoi même ce qu'on appelle nation puissante ou nation développée, le mot même puissante là c'est relatif. N'avez même pas à canaliser un virus. Tout le monde panique à cause d'un simple virus. L'Église a la réponse à ce genre de problème. Une des réponses, je dis bien pas la réponse, mais une des réponses, c'est le repas miraculeux, c'est la Sainte-Cène. Dimanche prochain, nous allons prendre la Sainte-Cène ensemble. Et je vous le dis déjà, c'est pas parce que le Seigneur m'a dit, il m'a mis à cœur de prendre la Sainte-Cène dimanche prochain. Et je vous annonce que quand tu viendras dimanche prochain, si jamais il y a des corps étrangers dans ton corps, il y a des virus ou des choses comme ça dans ton corps, tu peux commencer à leur dire, écoutez, je te conseille de partir avant, c'est un ultimatum, parce que dimanche prochain, tu vas désintégrer. Donc tu partiras de gré ou de force, parce qu'il n'y a pas meilleure arme que le repas du Seigneur. Oh, quelqu'un me dit, amen. Le repas miraculeux, le sang de Jésus-Christ, la chair de Jésus-Christ, quand elle pénètre mon corps, elle rentre à l'intérieur de mon corps, et elle fait, c'est la vie de Dieu contre la vie du diable. Elle asperge, elle aspire la vie du diable, elle la détruit totalement. Quelqu'un me dit amen. Voilà pourquoi quand on fait la Sainte-Cène, il y a toujours beaucoup de guérisons. Et je vous dis, il y aura beaucoup de guérisons. Dis-moi amen. Certains ont eu des objets dans leur corps, ces objets vont partir. Partiront, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le choix. Quand Dieu appelle, Dieu encourage toujours. Et Dieu encourage comment? Par sa parole. Voilà pourquoi, par exemple, quand il appelle Jérémie, le prophète Jérémie, Jérémie 1, verset 8, Dieu dit à Jérémie, Jérémie, ne crains pas, ne crains point, car je suis avec toi pour te délivrer. Je suis avec toi pour te délivrer. Lorsqu'il vient se révéler à Marie, 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 la Vierge Marie, oh, elle entend, elle est d'accord avec la parole de Dieu, elle est d'accord avec le fait de faire le travail de Dieu qui est de porter l'enfant pendant 9 mois, elle est d'accord. Mais le problème c'est que même quand Dieu t'appelle, tu peux être d'accord et puis avoir un peu peur, parce que la peur du regard des autres, la peur de qu'on dira tant, la peur est-ce que mon mari va rester avec moi, si j'arrête de coucher avec lui, est-ce qu'il va rester avec moi, c'est juste une parenthèse. J'ai parlé à quelqu'un, dis-moi amen. Donc, ce n'est pas la peine, reste assis là où tu es. Ne sois pas inquiète, ne sois pas nerveux ou nerveuse. Hein? Reste là. L'ange lui dit, Marie, ne crains point, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Ne crains pas. À chaque fois que Dieu appelle, à chaque fois Dieu encourage par sa parole. Et à chaque fois Dieu dit, n'aie pas peur, ne crains absolument rien. Pourquoi? Parce que le jour où tu te lèves pour commencer à faire la volonté de Dieu, écoute-moi mon frère, ma soeur, si tu te lèves pour faire la volonté de Dieu, tu seras attaqué. Il y aura de l'adversité, il y aura de l'opposition devant toi. Après, ça dépend juste des niveaux de volonté de Dieu, mais il y aura de l'adversité. Rien que quand tu dis, par exemple, je veux me préserver pour le mariage, tu veux déjà les critiques, comment ça pleuvoir, les menaces, les critiques, les dénigrements, les moqueries, tout ça pour t'encourager à faire comme tout le monde. Le problème, c'est que tu ne peux pas faire comme tout le monde parce que tu n'es pas comme tout le monde. Tu es né pour être différente. Non, dis-moi amen. Alors, pourquoi tu as peur? Pourquoi tu rougis? Tu n'as pas à rougir. Il faut arriver au point où ce sont plutôt les autres qui doivent t'envier pour ton attitude. Et même quand ils ne vous le disent pas ouvertement. Vous savez, parfois, quand les gens se moquent de nous, parmi les moqueurs, il y a toujours des moqueurs qui finissent par être changés parce qu'ils voient comment tu es ferme, comment tu es sage, comment tu es mûr, tu es équilibré. Ils disent franchement, je ne voulais pas te dire la dernière fois, mais franchement, je t'admire, je t'envie. Est-ce que tu peux m'emmener à l'église? Oui, oui, viens à ICC, viens à ICC là-bas. Mais il ne faut pas que mes copines me voient. Pas de problème, on ne va pas te voir en catimini. En catimini. Il y a toujours des campagnes d'intimidation et de peur qui se lèvent, qui se dressent contre ceux qui décident de se lever pour faire la volonté de Dieu. Quels que soient les domaines dans lesquels tu voudras faire la volonté de Dieu, tu vas avoir de l'opposition. Dis-moi amen. À Corinthe, par exemple, nous voyons dans Actes chapitre 18, au verset 6, l'apôtre Paul est parti faire le travail de Dieu. L'apôtre Paul est parti évangéliser. L'apôtre Paul est parti annoncer la bonne nouvelle. Mais quand il arrive dans la ville de Corinthe, à la vue des idoles, des statues, il y avait des idoles partout. Et aussi bien à Athènes qu'à Corinthe. Corinthe était un grand centre portuaire, était un grand centre commercial, une grande ville commerciale. Il y avait la débauche. Il voit la débauche partout. Il voit l'idolâtrie partout. Les gens font des sacrifices. L'occultisme est aggravé. Et il commence à annoncer la bonne nouvelle dans une ville où il y a l'occultisme, où il y a les sirènes des eaux partout, où il y a des esprits de mort partout. Paul se lève pour annoncer la bonne nouvelle du royaume. Et pendant que Paul se lève pour annoncer la bonne nouvelle, mon frère, ma soeur, il y a toujours de l'opposition. C'est la peur et l'intimidation. Alors, dans le verset 6, il est écrit, les Juifs lui faisaient de l'opposition. Les Juifs s'opposaient à lui ouvertement et l'insultaient. Pauvre type, minable, oh voleur, sorcier, franc mécanicien, franc tireur, franc charpentier, franc menuisier, franc truc, tous les francs du monde, tu es franc, tu es un occultiste. Ils ont mis ça sur internet en train de l'insulter. Il n'y a pas de problème. Ah, je parle de quelqu'un. Toujours en train de calomnier, de critiquer, d'injurier, de menacer. Pourquoi est-ce qu'ils font ça là? C'est des campagnes d'intimidation et de peur. Ça vient du malin. Ça vient d'un adversaire invisible qui utilise les humains comme visibles. Mais derrière, c'est un ennemi invisible. Voilà pourquoi il ne faut pas riposter. Ah, toi aussi tu penses ça de moi, tu perds ton temps. Il est poussé par un esprit derrière. Oh, le monde que tu vois n'est pas le monde réel. Le monde que tu vois n'est pas réel. Tu vois quelqu'un qui se lève qui commence à t'insulter. Ce n'est pas réel, ce n'est même pas lui. Ce n'est pas la peine de lui en vouloir. Voilà pourquoi Jésus a dit pardonner. Parce que ce n'est pas... Oh, dis-moi amen. Quand Jésus était sur la croix, il a dit Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Toi tu dis, si, ils savaient. Non, ils ne savaient pas. Ils étaient animés par des démons qui les poussaient. Allez, parler. Puis ils étaient là, ouais, tuez-le. Tu as pu dire, mais qu'est-ce qu'on a fait? Mais c'est ça qu'ils ont dit, mais homme frère, mais que ferons-nous? On a crucifié le prince de la vie, le seigneur de la vie. Nous l'avons mis à mort, c'était pas votre faute, vous étiez poussés, animés. Il y avait des gens qui vous poussaient. Et toi tu commences à te donner comme, mais poussez, vous allez voir. Mais non, toi aussi mûris un peu. Oh. Dis à ton voisin, il ne faut pas nous fatiguer ici. Là. Oh, quelqu'un me dit amen. Là. Non, parce qu'il y a ton voisin là qui passe en toi à se lamenter. Mais pourquoi ils ont dit ça à mon sujet? Moi, j'ai rien fait. Mais toi, on sait que tu n'as rien fait. Sois détendu. D'ailleurs, si tu n'as rien fait, pourquoi tu paniques? Nous, on n'a rien fait. On est cool. Tu insultes.
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, béni soit ton nom.
T'as qu'à parler, ce n'est pas ton problème. Dis-moi amen. Derrière, c'est l'intimidation et la peur. Alors, verset 9. Le Seigneur dit à Paul en vision,
pendant la nuit. Paul, ne crains point. Mais, parle et ne te tais point. Paul, parle. Parce que la bataille de l'intimidation, c'est fermer ta bouche. Tu sais pourquoi? Parce que pour croire, il faut que quelqu'un parle. Pour que les gens croient, il faut que quelqu'un leur annonce l'évangile. Oh, pour que quelqu'un annonce, il faut qu'il parle. On n'annonce pas l'évangile en disant. Tu as dit quoi? Ou encore, tu parles français? Ok, très bien. Je parle latin. Sanctificum acunusum cunusum cunducum Jesus cum. Kinus cum catacum cataclus kiluncum. T'as compris? Non. Oh bah t'es trop bête alors, désolé. La bataille, c'est la parole. La bataille de Jésus, c'est la parole. Et d'ailleurs, la bonne nouvelle, c'est qu'il est la parole. Il dit à Paul, Paul, ne te tais point, parle. Je suis avec toi. Personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. À Brazzaville, à Pointe-Noire, à Dolisi, à Owando, partout dans le Congo, j'ai un peuple nombreux, dit le Seigneur. Levez-vous, parlez. Parce que le but de l'adversaire, c'est l'intimidation. Vous voulez faire quoi? Nous, on veut annoncer Jésus. Pourquoi? Vous là, vous étiez où? Les petits, nous sommes là avant vous, il n'y a pas de problème. Nous parlerons. Intimidation, ça ne marche pas avec nous. Nous parlerons. Et Jésus dit, et Dieu dit à quelqu'un ce matin, je suis avec toi. Personne ne te mettra la main pour te faire du mal. Il parle à ses mangungu. On va voir, petit, va voir. Je vais faire les sacrifices. Attention, demande tes cheveux, demande tes ongles, demande tes vêtements. Dis donc, petit, casse-toi-nous, donne tes ongles. Si tu m'as pas te donner tous mes ongles. Gratuitement. Même mes chemises, prends, va faire. Masatarabakaya robobobochak. Ah. Hey, lance tes flèches. Je te les retourne au nom de Jésus. Comment de la poussière peut-il s'opposer à une divinité, à un Dieu? 100% homme, 100% Dieu. Je suis, tu l'es. Dis-moi amen. Non, mais il y en a qui pour la première fois, il dit, oh, mais qu'est-ce qu'il est arrogant? Non, nous ne sommes pas arrogants. Nous sommes de l'assurance parce que nous savons ce que Dieu dit. Le créateur de l'univers, son esprit, est venu habiter en moi. Et tu veux que moi j'ai peur? Et j'ai fait comment pour avoir peur? On fait comment pour avoir peur? Et explique-moi comment tu as peur. Kachatarabayasa. Il dit, ils font le oh, oh, on va voir, on va vous avoir. Vous n'aurez personne, c'est nous qui allons vous avoir. Machatarabaya. Parce que pourquoi? Parce que la terreur de l'Éternel change de camp. Ne m'oublie quoi encore? La spécialité des démons, des puissances sataniques, c'est la peur. Faites attention, c'est la peur. Hé, hey, toi là, je ne sortirai pas. Comment des fois tu pries pour les gens, puis tu entends l'esprit de dire, tu ne me connais pas, je suis l'idole familiale. Je dis, machaka, tu es poussière, rakashabata d'abord. Il y a un seul nom qui est quelqu'un, c'est le nom de Jésus. Tu dégages au nom de Jésus de Nazareth, le Christ. Oh, la bonne nouvelle pour toi, mon frère, ma soeur, c'est que la Bible dit que Jésus a été élevé au-dessus de tout ce qui est principauté. Non, ceux qui dirigent même les nations, les pays, ils ne peuvent rien contre toi. Pas les démons. Les démons, ils sont petits. Mais même ceux qui sont au-dessus des démons, ils ne peuvent rien contre toi. Tu sais pourquoi? Parce que toi, tu es mort et ta vie est cachée avec Christ en Dieu. Et Christ est assis à la droite du Père dans les lieux les plus élevés. Tant que tu restes en Christ, Dieu dit, n'aie pas peur, reste tranquille, parle, ils ne peuvent rien te faire. Ce qu'ils font là, c'est les mangungu. Dis-moi amen. Paul était dans une vie d'occulte. Occultisme partout. À gauche, à droite, occultisme. Occultisme, Dieu a une réponse. Dis-moi, Dieu a une réponse. Dieu a aussi son arme fatale et redoutable. Première arme de Dieu, la parole de Dieu. Deuxième arme, le Saint-Esprit. Quelqu'un me dit le Saint-Esprit. Mais la première âme, c'est d'abord la parole de Dieu. Parce que le Saint-Esprit ne peut rien faire sans la parole. Parce que Dieu et sa parole sont un. Et Dieu, pour agir, a besoin que tu manges la parole. C'est là que beaucoup sont disqualifiés. Beaucoup ont peur parce que, Seigneur, je ne sais pas comment faire. Mais tu n'as pas mangé la parole. Où étais-tu hier quand on enseignait la parole? Toi, tu es à l'église seulement le dimanche. Dimanche matin, tu es là et tu dis, waouh, le message m'a fait du bien. Wow! Deux semaines après, tu as oublié le message.
Pourquoi? Mais pendant que nous tous là, on prend le temps de réécouter les mêmes messages à longueur de journée, du lundi au lundi, on écoute la parole, on demeure. Quelqu'un me dit, on demeure. On demeure dans la parole et la parole pénètre nous. On mange la parole. Mon esprit se nourrit. Nos esprits se nourrissent. Nos âmes sont transformées. Nos vies sont changées. Et on devient des hommes et des femmes extraordinaires par la qualité de la parole. Parce que la qualité de la parole détermine la qualité de vie que tu manges. Détermine la qualité. La qualité de parole que tu manges détermine la qualité de vie que tu vis. Mais il y en a qui ne comprennent toujours pas. Et la parole est toujours pour eux optionnelle. Non, alors, si maintenant on te demande, qu'est-ce que tu as écouté il y a deux semaines? C'était un bon message, pasteur, j'étais content. Et qu'est-ce que tu as retenu? En tout cas, c'était bien, gloire à Dieu. Mais tu as retenu quoi concrètement? Vraiment, Jésus est Seigneur, alléluia. Mais concrètement, qu'est-ce que tu as retenu? En tout cas, pasteur, je ne me rappelle pas très bien. Mais tu vois, tu es faible. Et tu es faible, dis-moi amen. Et quand le jour du malheur arrive, l'ange de l'Éternel qui se tient à tes côtés veut agir, il dit, donne un ordre. Il te dit, allô, je prends d'abord le pasteur. Allô, pasteur. Il dit, non, donne l'ordre. Pasteur, le téléphone aussi est occupé. Ah, pasteur, là, vraiment, il est bizarre. Oui, il est très bizarre, très. Et comme par ça, il est plus joignable. Parce que le Saint-Esprit lui a dit, ne réponds pas. Où étais-tu au temps chaud? Quelqu'un me dit, aïe. Ah, parce que tu sais, des moments où tu as besoin des gens, ils ne sont plus là. Parfois, c'est Dieu qui te punit aussi. On te dit d'écouter la parole. Écoute la parole. Médite la parole. Et beaucoup échouent là, dans la première âme, parce qu'ils n'ont pas la parole. Mais ceux qui demeurent dans la parole, et en qui la parole demeure, ce sont ceux-là qui vont à l'étape suivante. Ils prennent l'arme qu'on appelle le Saint-Esprit. Il dit, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. C'est un esprit de force, de courage et d'amour. De Timothée 1, verset 17. Il dit... Oh, l'arme redoutable de Dieu, c'est son esprit. Ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, ni par tes capacités, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Par ton esprit, tu fais quoi? Tu fais tout. Vous savez, à cause du manque de parole, donc de ce que j'appelle l'insuffisance alimentaire spirituelle, beaucoup de croyants ont signé des traités de paix et d'armistice avec les diables et ses démons et ses forces obscures. Vous voyez, beaucoup de gens disent, là, on appelle ça encore l'omerta. La loi du, on ne parle pas. Je suis à l'église le dimanche.
Jésus.
Je sors de l'église le dimanche.
Jésus.
Les âmes sont en train de périr.
C'est pas mon problème. Je ne veux pas les toucher.
J'étais en Martinique, et chez le pasteur Freddy, il y a des frères qui nous ont... On s'est me demandé, pasteur, on nous a dit que si on il voulait faire l'accueil, si on fait l'accueil, on sera attaqué par les démons. Tu dis, pasteur Freddy, tu as des problèmes. Mais quelqu'un qui pense à ça, mais ils vont t'attaquer même ça. Mais c'est grave. Mais c'est quoi ces poules mouillées là? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il y a des colères qui sont des colères divines. Et quand l'esprit de l'éternel te dit, mais comment peux-tu avoir peur? Mais tu es fou, quoi. Donc tu as peur qu'on vienne te faire du mal. Seigneur, ça va mieux? Non, ça va mieux là-bas, j'espère. Hein? Ils ont changé. Alléluia, rabako, charabaka. Nous, on a changé. Quelqu'un me dit amen. Donc beaucoup de croyants vivent sous la loi de l'omerta, la loi du silence, parce que c'est des pactes de non-agression. Le problème, c'est que tu as affaire à celui qu'on appelle le menteur et le malin, le rusé. Quand il t'a dit la loi du silence, là, il ne te respectera jamais. Il te déteste. Si tu es un être humain, il hait l'espèce humaine. Son but, c'est de détruire l'espèce humaine, l'amener dans son royaume. Et toi, avec ta loi du silence, qui consiste à ne plus parler, à ne plus témoigner, à ne plus faire le travail de Dieu, t'inquiète pas, la bonne nouvelle, c'est que tu rendras compte un jour devant le trône du jugement. Tu rendras compte pour toutes ces âmes que tu n'as pas sauvées, toutes ces âmes à qui tu n'as pas parlé, alors que tu aurais pu parler. Non, toi, c'était seulement la loi du silence. Si je touche là, ils vont peut-être réagir. Ils vont réagir à quoi? Ils vont réagir comment? Dis-moi amen. Tu as vu, même ton amen est timide, je sais. L'ennemi avait proposé aux apôtres, comme à notre génération, la loi du silence, des traités de paix. Je suis prêt à faire la paix si seulement tu libères les âmes. Tu laisses partir les âmes. Tu laisses partir les prisonniers. Les malades ne sont plus guéris. Les opprimés ne sont plus contenus dans l'oppression, mais ils sont libérés. Le peuple n'en peut louer Dieu. Le peuple peut prospérer en Dieu. Là, on est prêt à faire la paix. Le problème, c'est que ça, c'est exactement la volonté du diable. Il ne fera jamais la paix pour ça. Donc que tu le veuilles ou tu ne le veuilles pas, le jour où tu donnes ta vie en Christ là, Déjà, tu as échappé du royaume des ténèbres. Tu as été transporté dans le royaume de lumière. Mauvaise nouvelle pour lui. Il vient de perdre une âme et il doit en perdre davantage. Quelqu'un me dit amen. Comprends que le travail de Dieu te poursuivra après la tombe. Et c'est pour ce travail, la Bible dit que Dieu va nous juger, nous les croyants. Tu as cru, tu seras jugé. Il y en a qui vont arriver à la porte, je suis sauvé. Mais qu'est-ce qui se passe? Porte fermée. Mais j'étais sauvé sur la terre. Fermée, vaut rien. Toto, tu n'as rien fait sur la terre. Méchant que tu es. Les gens sont en train de mourir autour de toi, tu t'es indifférent à la souffrance des autres. Le traité de paix a été proposé aux apôtres, Pierre, Jean, Jacques, Philippe, Luc, etc. Dans Actes chapitre 1, on voit le récit de nos frères, de l'église, de frères de l'église primitive, à qui le malin a proposé un traité de paix et d'armistice pour la loi du silence. Tandis que Pierre, verset 1, tandis que Pierre et Jean étaient en train de parler au peuple, conduits par le Saint-Esprit, ce jour-là, ils ont gagné beaucoup d'âmes, des milliers d'âmes. Pendant qu'ils parlaient au peuple, Pierre et Jean survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les sadducéens. Et ils étaient comment? Ils étaient mécontents. Pourquoi ils étaient mécontents? Mécontents de ce qu'ils étaient en train d'enseigner le peuple. Mon frère, quand tu enseignes le peuple, le royaume de ténèbres n'est pas content. Surtout quand tu leur donnes la nourriture qui les rend libres. Il a dit, vous connaîtrez la vérité. Elle vous rendra libre. Quand tu viens pour libérer les captifs, tu crées des dégâts dans le royaume de ténèbres. Dis-moi, amen. Mécontent de ce qu'ils enseignent le peuple. Et annoncer en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent la main sur eux. Et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain. Tout ça parce qu'ils annonçaient la parole de Dieu. Le but, c'était qu'ils se taisent. Est-ce que quelqu'un me suit? Car c'était déjà le soir. Le lendemain, verset 5, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent, « Mais dites-nous, vous de là, par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela ?» J'aime la question. Par quel pouvoir? Au nom de qui avez-vous fait cela? Et pourtant, il savait, hein? Mais il pose encore la question. Verset 8. Alors la parole de Dieu dit, alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un seul bienfait te vaut des problèmes. Un seul bienfait vaut des problèmes. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais les problèmes là, c'est l'intimidation. C'est pour éviter. Est-ce que tu sais que quand tu veux faire le bien aux gens, tu seras combattu? Même hors église, là, même hors Jésus, là, dans certains milieux, tu fais du bien aux gens, on va te combattre. Tu fais quelque chose de bon, tu seras mal vu. Quand le système est pourri, tu fais quelque chose de bon dans le système, tu es un ennemi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Afin que nous disions comment il a été guéri, verset 10, « Sachez-le tous !» Et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité les morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Et Paul et Pierre continuent. Verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. C'est pas l'empereur. Personne. C'est pas le chef de la synagogue. Il n'y a aucun autre nom dans tout l'univers, y compris sur la terre, qui a été donné aux hommes, par lequel nous devons être sauvés. Waouh! Ils disent, waouh! Mais qu'est-ce qu'ils racontent? Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent choqués. Choqués, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Oui, le problème, c'est qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit. Oh, quelqu'un me dit amen. Qui t'a dit que pour être un témoin de Christ, un témoin efficace, il faut avoir fait doctorat ou PhD ou Master 2, Master 4, Master 10? Frère, il faut avoir reçu le Saint-Esprit. Et au verset 15, il dit, que ferons-nous à ces hommes? Que ferons-nous à ces hommes? Alors, ils disent, verset 17, mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. C'est ça qui les dérange. Quand tu parles du nom de Jésus de Nazareth, ça dérange, ça crée des problèmes. Et les ayant appelés, verset 18, ils leur défendirent absolument de parler
Il leur défendit absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus-Christ. Alors Pierre et Jean leur répondirent, « On est vraiment désolés, mesdames et messieurs, vous les chefs de la ville, mais jugez vous-même s'il est juste devant Dieu de vous obéir à vous plutôt que d'obéir à Dieu. » Et puis ils disent verset 20, « Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Mon frère, ma soeur, quand tu as été touché par la grâce de Dieu, quand tu as rencontré ce Christ, quand il a sauvé ta vie, je suis désolé, tu ne peux pas me demander de me taire. Je ne peux pas ne pas parler de lui. Je ne peux pas ne pas expliquer ses compassions envers moi. Je ne peux pas ne pas expliquer sa bonté. Je ne peux pas ne pas vouloir changer l'ordre établi. Petit, tu veux changer l'ordre établi? Nous avons toujours fonctionné comme ça. Le quartier a toujours été sous la puissance des démons. De Satan, c'est nous qui contrôlons. Le problème, excusez-moi, je vous respecte beaucoup, mais le royaume de Dieu est arrivé. Le règne, le gouvernement de Christ est arrivé. Donc ça veut dire l'ordre doit changer. Et je ne peux pas ne pas parler de l'ordre qui doit changer. Je ne peux pas ne pas sauver des âmes. Je suis désolé. Je ne peux pas ne pas guérir les malades. Je ne peux pas ne pas libérer les captifs. Quelqu'un me dit amen. Je ne peux pas ne pas. Et le but du malin, c'est que justement tu te taises, tu ne fais plus rien. Intimidation. Quelqu'un me dit intimidation. Alors, ils les ont menacés encore plus sévèrement. Et ils ont dit interdiction de parler. Ils ont dit non, là franchement, ça ne va pas du tout. Et puis la Bible dit, qu'est-ce qu'ils ont fait devant les menaces et les intimidations? Qu'ont ils fait? Est-ce qu'ils ont commencé à argumenter en disant non, mais vous comprenez, franchement, on est désolé. Écoutez, on va peut-être changer un peu, on va peut-être parler un peu moins, parler juste une fois par une heure par jour ou une demi-heure par jour. Ils ont dit non, ceux qui parlent là. C'est un esprit qui est derrière. Regardez ce qu'on va faire. Les gars, allons dans le lieu secret. Retirons-nous dans le lieu secret. Voilà. C'est des moments où tu n'as pas besoin de trop parler, argumenter, discuter avec les gens. Quand tu sens qu'on te menace beaucoup, là, va recharger des batteries. La Bible dit, ils allèrent dans le lieu secret. Dis-moi le lieu secret. Après avoir été relâchés, verset 23, ils allèrent vers les leurs et ils racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent la voix tous ensemble. Donc ils se sont retrouvés, mon frère, ma soeur, ensemble et ils ont élevé la voix ensemble. Ils ont commencé à prier ensemble. Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Maintenant, verset 29, ô Seigneur, vois leurs menaces, vois leur intimidation, vois leurs provocations, vois leurs insultes, vois tout ce qu'ils font et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main. Mon frère, quand Dieu étend sa main, c'est compliqué. Quand Dieu étend sa main, c'est fini. Ça veut dire qu'il va agir. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges. Exactement ce que les gens-là ne voulaient pas voir. Ni guérison, ni miracle, ni prodige, ni délivrance, ni salut, ni conversion. On ne veut rien voir. Et il dit, Seigneur, étends ta main. Quelqu'un dit, Seigneur, étends ta main. Et quand ils eurent prié ainsi, le lieu où ils étaient assemblés fut ébranlé, il fut secoué, il fut agité, il fut remué. Et quelle est la réponse de Dieu? Dieu, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et la Bible dit, ils annonçaient maintenant la parole de Dieu avec encore plus de hardiesse, de courage, d'audace, sans réserve, ouvertement. La réponse de Dieu à l'intimidation, c'est le courage. Mon frère, tu sais, il y a des courages qui sont du courage normal. Je suis un homme courageux. Et puis, il y a du courage qui est divin. C'est-à-dire que ce n'est pas toi. C'est le Saint-Esprit. Là où on te faisait peur, là maintenant, c'est comme si tu n'as peur de rien. Et c'est le même Saint-Esprit de courage qui descend sur tous ceux qui sont déterminés à aller. Tous ceux qui sont déterminés. Parce que quand tu vas aller, tu auras un peu d'intimidation en fonction de là où tu vas aller. Je te dis ce matin, quel que soit le territoire où tu voudras aller, tu domineras. Pas toi toutefois, mais l'Esprit de Christ en toi te fera dominer. Tout ce que Dieu demande, c'est un cœur qui a faim, un cœur qui a soif, un cœur qui est passionné, un cœur qui est attaché. En jeu, c'est quoi? Le salut des âmes et le nom de Jésus qui doit être annoncé. Le malin et ses forces n'ont pas envie de voir le nom de Jésus élevé. Parce qu'il sait que c'est ce nom-là qui les a vaincus à la croix. À la croix, Jésus les a dépouillés par le sang de Jésus. Satan sait. Le diable sait. Voilà pourquoi il fait tout pour que tu restes ignorant.
pour que tu connaisses l'autorité que tu as dans ce nom. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents mystiques, tous les serpents sataniques, et sur les serpents, les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Aucune puissance de l'ennemi ne peut t'ébranler, dit le Seigneur. Aucune. Le problème, c'est que tu n'as tellement pas médité la parole que même quand je le dis, tu as du mal à dire amen parce que tu ne comprends pas de quoi je parle. Et comment va? Dieu dit, tu domines. Il dit, et lui dit, amen, je souris. Mais tu souris pourquoi? Quelqu'un me dit amen ici. Dieu appelle ceux qui ont peur. Mais ceux qui ont peur, il est rempli de son esprit. Ce n'est pas un esprit de timidité. Dehors, trop de gens sont en train de faire le zèle. Ils sont zélés pour le mal. Est-ce que toi, tu es zélé pour le bien? Est-ce que tu es zélé pour le Saint-Esprit? L'Esprit de Dieu dit, moi, je descendrai sur ceux qui ont faim. Nous sommes nombreux à ICC, vous inquiétez pas. Mais il descendra seulement sur ceux qui ont faim, sur ceux qui ont soif, sur ceux qui ne veulent pas reculer, ceux qui ne veulent pas avoir peur. Dis-moi, je refuse d'avoir peur. Peur de quoi? La réponse de Dieu, c'est la parole de Dieu et c'est l'Esprit de Dieu. Nous avons une bataille à gagner, mon frère, ma soeur. C'est la bataille pour établir la véritable adoration. L'ennemi a mis en place un système pour empoisonner les croyants, pour détourner la véritable adoration. Il a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est dans les cieux. Beaucoup disent, ils ne comprennent même pas, ça veut dire quoi, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Ils ne comprennent pas, on fait que répéter, on ne comprend pas. Ça veut dire que tu sois reconnu comme étant le seul Dieu, l'unique et le véritable Dieu, pas d'autre. Et derrière, il y a un gars qu'on appelle Lucifer qui se bat pour capturer l'adoration qui doit revenir à Dieu et à Dieu seul. Il fait tout ce qu'il met en place comme système, tradition, ancestraux, tout ce qu'il fait, détourner l'adoration qui doit revenir à Dieu seul. Et toi là, quand on te dit, offre à l'Éternel ton adoration, tu ne sais pas faire. Voilà pourquoi je vous dis ce que j'ai dit samedi, vendredi. Quand tu viens à l'atmosphère de gloire, ce n'est pas obligatoire. Dimanche encore, on ne te maîtrise pas. Mais ça, vendredi, là, c'est pour les adorateurs. C'est pour ceux qui veulent devenir des adorateurs. Pas pour tout le monde. Dis-moi amen. Amen. Non, comme ça, si tu viens vendredi, là, tu es là, si on dit on adore, tout le monde entend l'adorer, toi, tu es là. Tu sors. Tu sors gentiment dans le Seigneur, bien sûr, avec l'amour du Seigneur. Nous voulons venir ici adorer Dieu avec des cœurs sincères. J'en ai marre de voir dehors les gens exalter le diable. Ils exaltent le monde. Ils font tout pour le diable. Ils sont contents et ils assument. Et à l'église, il y en a qui sont là. Au lieu d'adorer, ils sont là. Si c'est moi, tu sors. Le dimanche, on peut te chasser parce que c'est l'amour du Seigneur qui nous oblige. Mais le vendredi, on peut te chasser. Non, vendredi, si vous n'avez, c'est pas pour tout le monde. Mais vous savez très bien que ceux qui viennent à l'église le dimanche, beaucoup viennent par habitude. Mais ceux qui viennent le vendredi, ils cherchent Dieu. Non, quelqu'un me dit amen. Donc, si tu viens et que tu ne cherchais pas Dieu, tu dis, ah, je me suis trompé aujourd'hui, non, passe-moi à la maison. Ou reste au niveau du portail où il y a des voitures, tu adores. Mais ici, là, dans les salles, les tentes, nous voulons les adorateurs. Est-ce que vous m'entendez? Ah, vous trouvez ça trop dur? Ah, ben vous n'avez encore rien vu alors. Ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour ceux qui cherchent Dieu. Je refuse de venir ici au plus voir les gens qui sont là, adorant, prosternant. Parce que tu sais, il y a des gens qui peuvent te polluer par leur attitude. Ils te polluent par leur présence. Si je t'attrape, tu sors. Mais dans l'amour du Seigneur, j'insiste parce que c'est l'amour du Seigneur qui me fait parler. Si vous n'avez pas cette sainte colère, ce n'est pas grave. Moi, j'ai cette sainte colère. Hier, il fut un temps où je servais dans les boîtes de nuit, je dansais toutes les soirées. On passait notre temps à aller dans les boîtes de nuit à chercher tout ce qu'il ne fallait pas chercher. Cette vie de débauche, on a tous fait ça jusqu'à ce que Dieu nous appelle par sa grâce. Et aujourd'hui, je vois les gens qui sont zélés dans l'occultisme. Ils sont fiers de mettre en avant l'occultisme, le Satan. Ils sont contents. Et quand on vient dans l'église, où sont les adorateurs? Ils ne sont pas là. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ça, je ne suis pas dedans. Voilà pourquoi si tu n'aspires pas, ne viens pas. Peut-être un jour tu auras faim. Quand tu as faim, tu vas au restaurant, oui ou non? Tu cherches à manger. Quand tu n'as pas faim, reste à la maison. Vendredi, là, ce n'est pas pour tout le monde. Le Saint-Esprit va descendre ici, là, ce n'est pas pour tout le monde. Si tu viens, tu restes là-bas près des voitures. On ne t'a pas chassé. Dis pas que là-bas, le pasteur a chassé les gens. Non! Le pasteur a dit, ici, là, dans les salles annexes, là, c'est pour ceux qui veulent chercher Dieu. Le salut du Congo passera par une véritable transformation de l'adoration. Lorsque le peuple du Congo commencera à offrir à Dieu, non pas lorsqu'on commencera à dire, notre Père qui est dans les cieux, que tu sois reconnu comme étant le seul, l'unique et le véritable Dieu.
Pas quand on va aller devant les idoles, parce que devant chaque idole, il y a des démons à qui on rend grâce, à qui on rend des cultes. Et ces idoles aussi, naturellement, et détournent l'adoration. Des gens qui sont sincères pourtant, mais ils sont ignorants. Donc l'adoration est détournée. Mais que fais-tu de ceux qui sont déjà par la grâce de Dieu sauvés, mais qui n'arrivent même pas à exprimer leur gratitude, leur reconnaissance à Dieu? Oh, quelle tragédie, quelle tristesse. Dieu cherche des adorateurs sur la terre. Peur ou pas peur, lorsqu'on commence à adorer, la peur disparaît, les ennuis disparaissent, parce que le Saint-Esprit remplit ces lieux. Dis-moi amen. La bataille est levée, le nom de Jésus. Et Satan fera tout pour pas que le nom de Jésus soit élevé. Et nous ferons tout par le Saint-Esprit, que le nom du Seigneur soit élevé. Quelqu'un me dit amen. Inclinons la tête en signe de révérence envers Dieu. Qui est digne, si ce n'est lui et lui seul? Tu vois pourquoi quand on vient chanter certains cantiques, quand on adore le Seigneur, il faut le faire à 100% ou il ne faut pas le faire du tout. Quand on adore Dieu, quand on s'offre à Dieu, quand on veut chérir Dieu, c'est sincère ou bien ce n'est pas sincère? Je refuse de m'asseoir là avec toi qui n'as pas envie d'adorer Dieu et tu es là en train de faire semblant. Non, nous ne sommes pas dedans. Dieu est digne de recevoir tout honneur, toute louange et toute gloire, splendeur, clameur, éclat, majesté, souveraineté, domination. Dans le psaume 34, verset 8, le psalmiste dit, sentez, sentez, par tes sens spirituels, sentez, voyez combien l'Éternel est bon, sentez. Ne sens-tu pas que le Père nous a créés afin que nous soyons des adorateurs? Il cherche des adorateurs sur la terre. Il veut qu'on l'adore, il veut qu'on le célèbre. Ne commettons pas l'erreur de laisser les gens du monde, les gens qui sont dans l'occultisme, offrir l'adoration à celui qui ne mérite pas l'adoration et qui se bat pour l'avoir, alors qu'il y en a un seul qui est digne d'honneur, de louange et de gloire. C'est l'agneau de Dieu, c'est le Père de gloire, c'est l'Esprit de Jésus. Lui, il est digne de recevoir louange, honneur et gloire. Et quand il vient dans sa maison, est-ce que son peuple prend le temps de l'adorer, de le célébrer, de le révérer, de lui rendre louange, honneur et gloire? Voyons donc. Toi seul es digne. Je suis l'Éternel. Je ne partage pas ma gloire. Il a dit, je suis l'Éternel, un Dieu qui ne tolère aucun rival. Il ne tolère aucun rival. Soit tu lui offres l'adoration à lui et à lui seul, soit tu n'offres rien du tout, mais fais un choix. Il appelle tout le monde, mais il veut qu'on lui offre une véritable adoration. Louange, honneur, ô gloire. Toi seul es digne. Toi seul es digne, notre Père et notre Dieu, de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne. Seigneur, ce matin nous voulons te dire merci. Ce matin nous comprenons que tu nous appelles, Seigneur, à aller. Nous comprenons ce matin que tu nous fais grâce encore, que tu nous équipes, Père. Tu nous remplis de courage, d'audace, de confiance. Tu nous accordes la grâce de ne pas nous taire. Tu nous accordes la grâce de ne pas reculer, mais d'accomplir la volonté parfaite de Dieu, d'être armé de courage, d'audace, de ne pas nous laisser intimider par la peur ou par l'intimidation quelconque de l'adversaire, mais d'être rempli de l'Esprit. Le secret, c'est le Saint-Esprit qui rétablit, Père, l'atmosphère de ta présence, l'atmosphère de ta louange, l'atmosphère de ton adoration au milieu de ton peuple, notre Père et notre Dieu. Toi seul es digne, toi seul es digne pour l'éternité. Toi seul es digne, toi seul es digne.